France Musique.
Le journal Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Les Palestiniens rejettent d'ores et déjà le plan de paix de Donald Trump, dont le premier ministre de l'État hébreu a eu la primeur hier soir à Washington. Le président américain, qui a également reçu Benny Gantz, le chef de file de l'opposition centriste israélienne, doit maintenant lever le voile officiellement sur des propositions formulées par son gendre, Jared Kushner, qui travaille sur ce dossier depuis 3 ans. Après le volet économique présenté en juin dernier avec 50 milliards de dollars d'investissement à la clé, place donc au volet politique. Donald Trump devrait encore donner des gages à son partenaire historique au Proche-Orient. Pas question en effet de changer de stratégie et de se mettre à dos une partie importante de son électorat. Grégory Phillips.
Sur le dossier israélo-palestinien, au moins Donald Trump est constant. Il avait promis le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, il l'a fait. Même chose pour la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan par Israël, en remerciement son ami Bibi, a même donné le nom de Trump à une implantation. Enfin, ces derniers mois, l'administration américaine a gelé les fonds destinés à l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ou encore annoncé que désormais, à ses yeux, les colonies israéliennes en Cisjordanie ne sont plus illégales, contrairement à ce que dit le droit international. Donald Trump a l'habitude de dire qu'il est le plus pro-Israël des présidents américains. Évidemment, ceci a aussi des fins politiques. Plus que l'électorat juif, traditionnellement démocrate, Trump veut garder la confiance des chrétiens évangéliques, pour lesquels le soutien à Israël est une priorité absolue. Ils sont entre 60 et 80 millions aux États-Unis, et à la dernière présidentielle de 2016, ils avaient massivement voté pour Donald Trump.
Plusieurs pays organisent cette semaine le rapatriement de Chine de leurs ressortissants, les États-Unis, le Japon, le Maroc, mais aussi la France, qui envisage le retour de plus de 500 personnes actuellement bloquées à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. Sur place, les autorités parlent désormais de 106 morts et près de 4000 habitants officiellement contaminés. L'île de Madagascar, mais aussi la Zambie, le Burundi, le Kenya ou encore le Burkina Faso. Au total, ils sont une dizaine de pays marqués par des conflits locaux et des crises politiques directement provoquées par le changement climatique. Autant de situations rarement évoquées dans les médias, comme le surligne aujourd'hui le baromètre de l'ONG CARE que Nathanaël Charbonnier a pu consulter en avant-première.
À Madagascar, c'est le phénomène El Niño qui rend la vie impossible, notamment dans le sud. Plus de sécheresse, moins d'eau, des cyclones plus violents et des conséquences dramatiques dans un pays où la population vit essentiellement de l'agriculture. On compte plus de 2 millions de personnes touchées. Au cœur du continent africain, en Zambie, là encore, le climat est source de crise. Dans le sud, le taux de pluie enregistré est le plus bas depuis l'année 1981. Les céréales ne poussent plus, si bien que les habitants sont obligés de manger des racines. 40% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. On pourrait croire le Kenya épargné avec son tourisme et ses images de safari, mais là encore c'est une erreur, la situation se dégrade. L'augmentation de la température de la mer entraîne des sécheresses de plus en plus fortes. En 2019, on parle de 20% de précipitations en moins dans le pays, notamment dans sa partie occidentale, si bien que plus d'1 million de personnes n'ont pas accès quotidiennement à la nourriture et que 500 000 enfants souffrent de malnutrition.
Ils avaient promis de se battre jusqu'au bout contre le géant américain. Les anciens salariés de Goodyear ont tenu parole 6 ans après la fermeture de l'usine d'Amiens Nord. Ils sont encore 832 à contester le motif économique de leur licenciement. Ils assisteront tout à l'heure à une nouvelle audience devant le Conseil des Prud'hommes qui n'avait pas réussi à trancher le litige en octobre 2018. Élodie Touchet.
Et si l'ancien leader de la CGT, Michael Ouamin, promet de nouveaux chiffres attestant de la très bonne santé financière de Goodyear, les débats ne devraient pas receler beaucoup de surprises. La ligne de défense ou d'attaque des deux parties est identique à celle livrée en 2018, des bénéfices records opposés à une dette abyssale du groupe américain. Identique aussi ce matin, la détermination de ces 832 anciens salariés. C'est une obligation d'être là, estime Stéphane Chevin, le maire de l'UAML. Licencié après 18 ans, passé à fabriquer des pneus et déterminé comme les autres à aller jusqu'au bout pour ses ex-Goodyear, cela signifie être indemnisé et réhabilité aussi. Que la justice reconnaisse qu'ils ne sont pas responsables de la baisse de compétitivité de l'usine amiénoise. Le motif économique était-il justifié pour fermer le site? C'est la question à laquelle devra répondre un juge départiteur. Lors de la première audience, le Conseil des Prud'hommes s'était montré incapable de trancher.
Près de 2000 personnes ont été évacués de deux campements situés porte d'Aubervilliers dans le nord-est de Paris. L'opération qui a mobilisé d'importantes forces de l'ordre s'est déroulée dans le calme. Les associations qui viennent en aide aux migrants demandent au pouvoir public d'arrêter de se renvoyer la balle, faute de quoi d'autres évacuations du même genre auront lieu dans les mois qui viennent. Un temps instable sur une grande partie du pays, avec des averses en pleine et de la neige en montagne, nuages et éclaircies partageront le ciel sur le pourtour méditerranéen. Les températures iront cet après-midi de 6 à 18 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. Très bonne journée et à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.